Vous écoutez, on lit pour vous.
Catastrophe, l'intelligence artificielle est là. Second texte du dossier du journal La Presse consacré à l'intelligence artificielle sous le titre « Salutaire ou catastrophique l'intelligence artificielle ». Ce texte est signé Alexandre Sirois et Philippe Mercure. Catastrophique, la révolution de l'intelligence artificielle? Environnement, monde du travail, secteur culturel, milieu de l'éducation. Les dérapages sont déjà nombreux, et plusieurs estiment qu'ils vont prendre de l'ampleur au cours des 5 prochaines années si les géants de l'intelligence artificielle continuent de nous imposer leur vision sans chercher à assurer la sécurité de leur système. Et si le pire était encore pire que ce qu'on pense être le pire? Lorsqu'on a demandé à Yoshua Bengio, co-président et directeur scientifique de l'organisation Loi Zéro, ce qui pourrait se passer de pire au cours des 5 prochaines années en lien avec l'intelligence artificielle, il a d'abord évoqué une éventuelle accélération de son développement. Citation. Le pire, c'est que les compagnies principales planifient utiliser les avancées des systèmes d'intelligence artificielle qui résonnent de mieux en mieux, qui programment de mieux en mieux pour accélérer la recherche en intelligence artificielle, résume-t-il, fin de citation. On pourrait même parvenir à entraîner un système d'intelligence artificielle pour qu'il fasse lui-même de la recherche et, par la suite, on pourrait le dupliquer presque à l'infini. Citation. Et là, c'est comme si on avait 1 million de chercheurs du calibre maximal qui travaillent ensemble sur la prochaine version, dit Yoshua Bengio, qui craint que l'intelligence artificielle évolue alors plus rapidement que notre capacité à contrer ses dérives. Citation. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Pour certains, ça peut aller jusqu'à l'extinction de l'humanité. Fin de citation, explique M. Bengio, d'un ton posé, malgré l'horreur de ce scénario. Selon cette hypothèse, l'intelligence artificielle pourrait devenir incontrôlable et vouloir nous détruire. Même sans être aussi catastrophiste, on peut envisager des dérapages sérieux si une intelligence artificielle plus puissante et mal encadrée était utilisée à mauvais escient. Citation. Ça va être tentant pour certains d'exploiter l'intelligence artificielle pour augmenter leur pouvoir afin d'avoir une influence économique, politique et militaire complètement excessive, prédit Yoshua Bengio. Fin de citation. Cette dérive potentielle inquiète aussi Sacha Lucioni, responsable de l'intelligence artificielle et du climat chez Hugging Face. Lors d'une récente conférence, un TED Talk, elle a dit croire, citation, que nous faisons fausse route avec l'intelligence artificielle aux dépens de l'humanité et de la planète. Fin de citation. Appelée à préciser sa pensée, elle montre du doigt le contrôle exercé par une poignée de grandes entreprises américaines, Google, Facebook, OpenAI, NVIDIA et autres. Actuellement, déplore-t-elle, ce sont essentiellement ces entreprises qui dictent dans quelle direction vont les développements de l'intelligence artificielle. Ces entreprises ont par-dessus tout décidé ce qui est le plus utile pour tirer profit des développements de l'intelligence artificielle. Citation, c'est de faire des publicités ciblées pour nous recommander des choses qu'on n'achèterait pas autrement et pour faire de la surveillance massive et aider les États totalitaires, déplore Sacha Lucioni. Fin de citation. Elle est également préoccupée par la formation d'une bulle financière en intelligence artificielle. C'est qu'on assiste, selon Sacha Lucioni, à un recyclage de fonds entre ces grandes compagnies et bien peu de vraies créations de valeur. Titulaire de la chaire Justice sociale et intelligence artificielle de l'Université Laval, la chercheuse consacre le plus clair de son temps à examiner les dégâts environnementaux provoqués par les développements de l'intelligence artificielle. Le bilan est déjà décourageant. Citation : On voit actuellement une expansion assez massive des centres de données qui sont construits un peu partout dans le monde, surtout en Europe et en Amérique du Nord. Peu importe les conséquences planétaires. Donc, peu importe les quantités d'énergie requises ou l'eau que ça va nécessiter. Fin de citation. Mais la concentration du pouvoir en intelligence artificielle est également problématique parce qu'elle nous fait prendre, citation, une route de non-durabilité au sens large. Fin de citation. Elle est donc tout aussi insoutenable sur le plan de la justice sociale, de l'équité et du partage des bénéfices, estime-t-elle. Le Salon du livre de Montréal n'est généralement pas le genre d'endroit où l'on s'attend à rencontrer des protestataires combatifs. Pourtant, lors de la plus récente édition de l'événement, une vingtaine d'illustrateurs d'ici ont brièvement troqué leurs crayons contre des pancartes et manifesté contre les percées de l'intelligence artificielle dans le milieu de l'édition. Citation : Ce qu'on dénonçait, c'est que certains éditeurs utilisent l'intelligence artificielle générative, mais reçoivent quand même des subventions culturelles. Fin de citation, explique l'organisateur de cette manif, Pascal Colpron, notamment connu pour avoir illustré les bandes dessinées de la série « Mort et déterré ». Ces illustrateurs se rebellent parce que l'impact de l'intelligence artificielle se fait déjà sentir dans leur milieu. Pascal Colpron prédit que si rien n'est fait, la situation continuera de se détériorer rapidement au cours des 5 prochaines années. Dans la foulée de la manifestation, Pascal Colpron et une demi-douzaine d'autres illustrateurs québécois ont créé le « Regroupement pour l'art humain » qui milite, citation, en faveur d'une création véritablement humaine. Fin de citation. Au bout du compte, c'est le milieu des arts au grand complet qui est menacé au cours des 5 prochaines années, estime l'illustrateur Pascal Colpron, qui exhorte les élus à mettre leurs culottes et à s'entendre rapidement, citation, sur ce qu'on doit faire pour conserver notre culture québécoise. Fin de citation. Il n'y a pas que les artistes qui doivent s'inquiéter. L'avenir du travail est en jeu. On signale déjà dans d'autres secteurs, dont l'informatique, que les embauches de jeunes diplômés pour pourvoir des postes d'employés dits « juniors » ont ralenti. Citation : Les économistes ne sont pas d'accord entre eux sur l'impact, mais c'est quand même probable qu'on va se retrouver avec beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi. Et c'est aussi ce qui motive des compagnies. Le gros magot, c'est d'automatiser la moitié de l'économie, affirme Joshua Benjo. Si on examine l'impact à venir de l'intelligence artificielle sur nos sociétés, on doit aussi aborder celui majeur de la slopification, S-L-O-P-I-F-I-C-A-T-I-O-N. Slopification. La quoi? Désigné mot de l'année 2025 par le dictionnaire Merriam-Webster, slope est utilisé pour décrire du contenu de piètre qualité produit par l'intelligence artificielle en grande quantité. Pour traduire slope, l'Office québécois de la langue française propose le terme « contenu dégénératif ». Le professeur titulaire au Centre Urbanisation Culture Société de l'Institut national de la recherche scientifique, Jonathan Roberge, estime, citation, que ça commence à être de plus en plus préoccupant, voire dangereusement préoccupant. Fin de citation. Autre citation, notre capacité à faire sens de l'information va être de plus en plus réduite. Ça pose une quantité de questions parce que si on ne comprend plus du tout le monde dans lequel on vit, c'est problématique en soi, mais aussi parce que moins on va savoir, plus on va foncer tête première. Et c'est un phénomène qui est aussi politique. Fin de citation. Jonathan Roberge. Autre citation. Les sociétés sont construites sur un certain nombre d'institutions. Là, on met à mal beaucoup de ces institutions-là. La vérité, la culture, le journalisme, etc. Il y a un coût énorme à ça, ajoute-t-il. Fin de citation. Jonathan Roberge rappelle que Joshua Benjo et d'autres experts avaient réclamé il y a 2 ans une pause dans le développement des systèmes d'intelligence artificielle. Il avait vu cette initiative d'un bon œil. Citation, on n'a aucune idée des effets néfastes sur les adolescents d'un point de vue psychologique, sur les suicides, sur le travail. Il y a plein de zones d'ombre qu'on est en train de remplir à grands coups de contenu pollué, dénonce-t-il. Et jamais on ne pose de questions sur le type d'action qui va préserver l'esprit critique. Fin de citation. Éric Martin et Sébastien Mussy, eux, incitent carrément à refuser l'intelligence artificielle. Tous deux professeurs de philosophie au collégial, respectivement au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et au collège de Maisonneuve, et auteurs du livre « Bienvenue dans la machine, enseigné à l'ère numérique », ils voient déjà les impacts négatifs de ces outils. Sébastien Mussy se dit terrifié par la perte d'imagination des élèves qui se tournent vers l'intelligence artificielle pour générer les idées pour leurs travaux. Il y a quelques années, lorsqu'il enseignait le concept d'utopie, il demandait aux élèves d'imaginer leur propre utopie. Citation, c'est un travail exigeant qui demande plusieurs heures de travail et qui doit être fait à la maison, dit-il. Je ne peux plus faire ça aujourd'hui parce que les élèves utilisent l'intelligence artificielle pour le faire. Autrement dit, mes étudiants sont privés de la possibilité d'imaginer leur société parfaite, d'imaginer le monde autrement que ce qu'il est. Fin de citation. En plus des lacunes en écriture dues à l'utilisation de l'intelligence artificielle, Éric Martin s'inquiète surtout d'un problème de « déchargement cognitif », entre guillemets. Citation. On confie à la machine notre capacité de prise de décision, ce qui fait que l'humain se retrouve à la remorque de la machine, estime-t-il. On se dirige vers des sociétés qui ne peuvent plus décider par elles-mêmes. Fin de citation. Autre citation, à la vitesse où ça se déroule, dans 5 ans, on sera à un degré catastrophique, prédit Sébastien Mussy. Et c'est la fin de cette seconde tranche de ce dossier sur l'intelligence artificielle, texte titré « Catastrophe, l'intelligence artificielle est là », signé Alexandre Serrois et Philippe Mercure, publié dans la presse du 11 janvier 2026. Je vous invite à nous suivre pour la troisième tranche, titrée « 5 façons de tendre vers le mieux ».
Pourquoi je digère mal la recette du conservatisme québécois, un texte de Maxime Boucher, paru le 8 décembre 2025 dans la presse. Maxime Boucher est professeur au cégep Marie-Victorin, étudiant au doctorat en sociologie à l'Université de Montréal et du Monde, canadien-français et citoyen du Québec qui s'en vient. Depuis quelque temps, un certain conservatisme identitaire prend une place considérable dans l'espace politique et médiatique québécois. Il se déploie sur plusieurs tribunes, mobilise un sentiment d'urgence et prétend parler au nom d'un « nous » menacé. Plutôt que de m'attarder aux personnalités qu'il incarne, j'aimerais vous présenter cette recette et les raisons pour lesquelles j'ai du mal à la digérer. Premier ingrédient, la victimisation inversée. Ce discours se présente d'abord comme la voix d'un groupe assiégé. On y affirme que nous serions intimidés, effacés, dominés par des forces extérieures, qu'elles soient culturelles, religieuses ou sociales. Cette posture victimaire sert ensuite de justification morale pour adopter des attitudes de fermeture ou d'exclusion. Un simple signe culturel, un vêtement, une pratique, un mot, devient un acte d'intimidation, ce qui permet de réagir comme si une agression avait eu lieu. Si la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, l'intimidation peut, elle aussi, être le reflet de nos propres peurs. Cette inversion transforme la défense identitaire en vertu publique. Deuxième ingrédient, le catastrophisme extrapolé. La recette se poursuit par la projection d'un avenir présenté comme une apocalypse culturelle. L'ouverture serait synonyme de déclin. La diversité mènerait à l'effacement. On évoque la disparition d'un peuple, l'effacement d'un sexe, la fin d'une civilisation, comme si accueillir la complexité humaine équivalait à renoncer à soi-même. On présente toujours le pire scénario, femmes chassées de l'espace public, institutions qui s'effondrent sous le poids de la diversité, disparition du français. On s'empêche ainsi de penser d'autres issues, et surtout, les moyens de les construire. Par exemple, la capacité d'intégration du Québec n'est pas figée et dépend de nos efforts collectifs. Or, en réduisant la francisation et les programmes d'intégration, tout en attisant les différences, on abaisse ce seuil, on aggrave le problème, puis on exploite les tensions ainsi produites. Le problème n'est pas l'immigration, mais notre désengagement. D'autres chemins sont possibles, plus exigeants, mais plus féconds, ceux où la rencontre se passe bien et où la coexistence enrichit au lieu de détruire. Troisième ingrédient, l'opposition tranchée entre le « nous » et les autres. Ce discours s'appuie ensuite sur une division nette entre des groupes présentés comme naturels, fondateurs, légitimes, et des groupes qu'on dit « autres », même lorsqu'ils vivent ici depuis des décennies, des siècles, des millénaires. Pourtant, un rappel historique élémentaire fait vaciller cette construction. Nous, les Canadiens français, sommes aussi issus de migrations, de rencontres, de métissages parfois forcés, parfois choisis. De plus, le territoire, celui que recouvre la province du Québec, n'a pas été défini par nous. Il a été dessiné et nommé par les colonisateurs britanniques pour nous intégrer dans leur Commonwealth. Quand certains insistent sur le lien organique entre la nation et le territoire, ils oublient que ce territoire a été pensé d'abord pour nous administrer, pas pour nous émanciper. En érigeant la forteresse du nationalisme identitaire, on finit par s'enfermer dans les limites mêmes que nos anciens maîtres ont tracées pour nous. Quatrième ingrédient, la prétention à dire la vérité contre la novlangue. Enfin, ce discours affirme souvent parler au nom de la vérité brute et du gros bon sens contre ce qu'il présente comme des manipulations idéologiques. On accuse certains groupes de créer une novlangue, comme si seuls les autres produisaient des récits, des catégories et des cadres d'interprétation. Pourtant, toute parole simplifie, sélectionne, transforme. Toute parole, qu'elle soit conservatrice, progressiste, religieuse ou laïque, construit un sens. Le nier, c'est refuser de voir sa propre contribution à la manière dont on habite le réel. Quant à moi, je joue franc jeu et je vous signale mon intention et ma position. Je produis du sens et je vous le communique. Ce n'est pas une vérité, c'est aussi une recette. Certains diront que c'est la recette woke, mais c'est mal me connaître, car je puise mes ingrédients dans une frange de la tradition chrétienne qui mise sur le dialogue et l'accueil. Et on oublie trop souvent que le christianisme social traverse notre histoire depuis bien avant que woke devienne une étiquette commode pour disqualifier toute réflexion critique. Mes ingrédients, c'est s'autoriser à choisir ses appartenances sans en faire des forteresses, accueillir des récits nouveaux sans y voir des effacements, reconnaître la diversité humaine sans l'opposer à notre propre continuité. Enfin, apprendre à réfléchir ensemble en se recentrant et en se décentrant de soi pour mieux poser nos problèmes et y répondre. Pour inventer demain, il faut d'abord croire au présent. Vigneault chantait que « l'amour et la haine sont ses enfants et ses chaînes ». À nous de choisir nos chaînes. L'amour ouvre, accueille, relie. La haine nous enferme. Et elle est collectivement une très mauvaise conseillère. C'était « Pourquoi je digère mal la recette du conservatisme québécois », un texte de Maxime Boucher, paru le 8 décembre 2025 dans La Presse.
Comment arrêter un antidépresseur? Une question toujours dure à trancher. Un texte de l'Agence France-Presse publié le 11 décembre 2025 sur le site de TVA Nouvelles. Que faire quand un patient sous antidépresseur va mieux? Longtemps négligée en France, la question est aujourd'hui perçue comme un enjeu médical majeur et les recherches s'accumulent sur la manière d'arrêter un traitement. Mais les réponses restent incertaines et difficiles à appliquer. Une vaste étude publiée dans le Lancet Psychiatry apporte enfin des réponses d'une solidité sans précédent grâce à l'ampleur des données recueillies. Dès que l'on change ou réduit un antidépresseur, c'est une source d'angoisse pour la personne concernée, rapporte à l'AFP Christine Villelongue, coprésidente de l'association France Dépression. Or, il n'y a aucun cadre, très souvent, quand on arrête, il n'y a pas de suivi. Après plusieurs décennies d'usage, les médecins savent très bien dans quelles conditions prescrire un antidépresseur. Mais, quand le patient va mieux, les incertitudes se multiplient. Faut-il poursuivre le traitement tel quel, avec des effets secondaires qui peuvent s'accumuler à long terme? Le continuer à faible dose? L'arrêter? Au risque d'une rechute ou d'un sevrage difficile? Et, si oui, soudainement ou progressivement? Ces questionnements font depuis plusieurs années leur chemin chez les psychiatres avec l'émergence d'un concept, la déprescription, qui incarne l'importance de réfléchir à l'arrêt d'un antidépresseur, une prise de conscience qui n'a longtemps rien eu d'évident. Tout au long de mon internat, achevé pourtant très récemment, ce sujet n'a jamais été abordé dans l'enseignement, explique à l'AFP la psychiatre française Maeva Mousseau, présidente de l'Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues. Lorsque les patients expriment le souhait de réduire leur traitement, cela est encore trop souvent interprété par le corps médical comme un déni de leurs troubles, poursuit Mme Mousseau. Norvège et Pays-Bas plus avancés. Elle note que d'autres pays sont plus avancés que la France, comme la Norvège, où des consultations dédiées à la déprescription sont proposées, ou les Pays-Bas, où des microdoses d'antidépresseurs sont autorisées afin de permettre une réduction très progressive. Mais est-ce réellement la meilleure stratégie, comme en sont convaincus nombre de psychiatres? L'idée semble intuitive, mais les spécialistes restent confrontés à un manque criant de données probantes sur la conduite à tenir. Les auteurs de l'étude publiée dans The Lancet, amenés par les chercheurs italiens Giovanni Ostusi et Deborah Zaccoletti, ont évalué l'ensemble des études déjà menées pour comparer les différentes options quand un patient dépressif va mieux, soit plus de 70 essais cliniques portant sur quelque 17 000 personnes. Résultat mis en avant par les chercheurs. Un patient chez qui l'on arrête progressivement un antidépresseur n'a pas plus de risque de rechute que s'il poursuit son traitement, mais à condition de disposer d'un soutien psychologique. La pire option reste, dans tous les cas, un arrêt brutal du médicament. Même si les antidépresseurs sont efficaces pour empêcher les rechutes dépressives, rien n'oblige à en faire un traitement à long terme pour tout le monde, en conclut Mme Zaccoletti, citée dans un communiqué du Lancet. Mais plusieurs spécialistes appellent à la prudence. Ils pointent par exemple qu'une diminution progressive sans soutien psychologique n'apparaît pas forcément plus sûre qu'un arrêt soudain. Même quand on diminue très progressivement un antidépresseur, l'arrêt reste associé à un risque de rechute, prévient le psychiatre allemand Jonathan Hensler dans un commentaire également publié par le Lancet Psychiatry. Selon lui, les résultats montrent surtout le bénéfice supplémentaire apporté par une psychothérapie. Or, pour de nombreux patients, un tel soutien n'est pas une option réaliste, comme le souligne Mme Villongue, insistant sur la carence de soignants en France. Les conclusions du Lancet Psychiatry s'inscrivent dans un monde idéal, mais la réalité du terrain, ce n'est pas ça, juge-t-elle. C'était « Comment arrêter un antidépresseur ?» une question toujours dure à trancher. Un texte de l'Agence France-Presse publié le 11 décembre 2025 sur le site de TVA Nouvelles.